Merci, bonsoir à tous dans le cadre de ces jeudis de la procure. Un peu exceptionnel ce soir puisque nous avons le plaisir d'organiser cet événement avec nos amis orthodoxes autour du livre du père Jean Breck dont nous remercions de sa présence, Le don sacré de la vie, qui est donc publié aux éditions du Cerf. D'autre part, en partenariat avec le site orthodoxie.com, excellent site sur l'orthodoxie, le site phare de l'orthodoxie en France. Je pense que tout le monde le connaît. En tout cas, chez nos amis orthodoxes qui nous font l'amitié de venir ce soir à la procure, et puis chez les autres aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à lire sur ce site. Je suis très heureux aussi de recevoir parmi nous le père Nicolas Tchernokrak, qui est le doyen de l'Institut théologique Saint-Serge, le grand institut de théologie orthodoxe de Paris. Et je vais le laisser présenter le père Breck avant de moi-même échanger quelques propos avec lui, en tout cas le faire parler de son livre. Mon père, c'est à vous.
Merci. Merci beaucoup. J'ai vraiment grand honneur de vous dire quelques mots sur notre cher professeur, père Jean Breck. Donc, père Jean, nous nous connaissons presque depuis, père, trentaine d'années. Je pense 25 en tout cas. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, simplement quelques mots sur vous. Je dirais tout d'abord, père, que vous avez double culture. Vous avez tout d'abord la culture américaine, parce que vous êtes né aux États-Unis. Et vous êtes formé là-bas, en tout cas jusqu'en maîtrise. Et ensuite, vous êtes venu en Europe. Et c'est sous ce continent, vieux continent, que vous avez trouvé la joie de vivre, de communiquer votre à la fois connaissance, votre spiritualité, et donc de transmettre ça. Je dirais simplement que vous avez commencé avec les études bibliques. Vous avez vraiment scruté la parole de l'Écriture, la parole de Dieu. Et ensuite, vous avez cherché les moyens comment incarner cette parole. Et c'est à travers l'autre matière, l'autre discipline bioéthique que vous avez vraiment trouvé cette parole vivante, mais dans un corps vivant, n'est-ce pas, en utilisant évidemment toute votre connaissance et expérience de sciences bibliques, et donc et aussi de sciences de bioéthique. Et donc nous apprécions beaucoup, père. En tout cas, vous êtes resté à Saint-Serge, vous êtes à Saint-Serge depuis, j'ai calculé, 24 ans. Peut-être, je ne sais pas. Oui, en fait, quand vous êtes venu tout d'abord faire vos études postdoctorales, et ensuite vous étiez pour la première fois, vous avez enseigné l'exégèse du Nouveau Testament, Nouveau Testament, et aussi éthique. Et depuis, et donc, à peu près 1995, vous êtes donc depuis 1984, vous enseignez chez nous donc l'exégèse patristique et donc bioéthique. Mais évidemment, vous êtes déplacé, je dirais, vous êtes véritablement un vrai Européen, parce qu'en fait, vous avez commencé vos études de doctorat en Allemagne, après vous étiez en Suisse, et donc, et finalement, vous êtes venu chez nous à Saint-Serge. Mais il faut dire quand même que vous avez enseigné aussi à New York, donc à l'Institut Saint-Vladimir, aussi donc le Nouveau Testament et éthique. Et ensuite, moi, j'ai longtemps dirigé la formation théologique par correspondance, mais vous êtes véritable fondateur de cette formation théologique par correspondance qui marche grâce à vous, parce que vous avez tout organisé et vous avez laissé un véritable cadeau à notre institut. Voilà, juste quelques mots, mais je donne la parole et donc on va vous écouter. Merci beaucoup.
Merci, mon père, pour cette présentation de notre auteur du jour, donc le père Jean Breck, pour ce livre, Le don sacré de la vie, paru aux éditions du Cerf. Alors, Première question que j'aimerais vous poser, mon père, c'est la suivante. Comment êtes-vous venu à écrire ce livre ? Vous avez étudié la patristique, l'exégèse biblique. Quel parcours est le vôtre pour arriver à vous intéresser, et de très près, parce que c'est extrêmement documenté, réfléchi bien sûr, très, je dirais, très au fait de tout ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les technologies sur les questions éthiques. Comment êtes-vous devenu à vous passionner pour ces questions éthiques ? Quel a été votre parcours pour arriver à ce livre important que publient aujourd'hui les éditions du CERF ?
À vrai dire, d'une certaine façon, c'était au hasard. C'est-à-dire que je suis arrivé aux États-Unis, de nouveau rentré chez moi en 84 pour commencer un enseignement à l'Institut Saint-Vladimir. J'étais reçu comme professeur du Nouveau Testament. Je connaissais très bien feu le doyen John Meyendorf, que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, je pense, au moins du nom. Alors, un jour, en prenant du café dans son bureau, il m'a demandé, « Tu sais, nous avons essayé de créer un cours dans le domaine de l'éthique pour nos étudiants. Est-ce que tu veux bien le reprendre ?» Et j'ai dit que non, ce n'était pas du tout mon domaine. Et puis, il m'a dit, « Donc, je te donne une année. » Alors, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à lire et à lire et à lire. Bien sûr, le domaine de l'éthique, est tellement vaste, il est impossible de tout cerner. Alors je me suis concentré sur la bioéthique, donc surtout les questions posées par la technologie biomédicale concernant le début et la fin de la vie chrétienne, questions qui préoccupent nos pasteurs, mais aussi nos médecins et beaucoup d'autres. Et c'était comme ça que j'ai commencé cet enseignement. Je le trouvais de plus en plus intéressant. Et donc, j'ai fait cet enseignement là-bas, mais aussi en revenant ici à Saint-Serge en 96, j'ai poursuivi les mêmes pistes, donc exégèse, mais aussi bioéthique.
Alors, avant de peut-être d'aborder tout à l'heure ces questions quasi pratiques, en tout cas de rationalité pratique, qui sont importantes et qui effectivement couvrent des débats fondamentaux de société. Peut-être que moi j'aimerais bien vous interroger sur en amont sur la manière dont un orthodoxe peut s'affronter à ces questions. Alors si je dis des bêtises sur l'orthodoxie, surtout vous n'hésitez pas, hein, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais enfin, je crois quand même savoir que pour l'orthodoxe, d'une certaine manière, toute question morale est surnaturelle, et que il n'y a pas véritablement de différence, de fracture entre la loi naturelle et la loi du Christ. Alors, comment l'univers de l'éthique et de la morale est-il abordé lorsqu'on est orthodoxe et prêtre orthodoxe ?
Sur un plan très pratique. En tant que prêtre, par exemple, on est constamment confronté par des situations, disons, de crise, qu'il s'agit d'un avortement, qu'il s'agit de la mort d'un enfant nouveau-né, qu'il s'agit d'une jeune fille, par exemple, qui tombe enceinte, et ça provoque une crise au sein de la famille, donc sur le plan pastoral. Et il en est de même en ce qui concerne la fin de la vie, de plus en plus avec les tendances vers un acharnement thérapeutique, n'est-ce pas, une sorte de vitalisme qui veut à tout prix préserver la vie biologique. Souvent, nos prêtres sont appelés, interrogés par les familles, mais aussi par l'équipe médicale, ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il mettre une sonde ? Faut-il retirer le respirateur, le ventilateur, etc. Alors, bref, il s'agit des questions d'ordre pastoral très pratiques qui nous ont poussés dans l'orthodoxie à nous concentrer sur cette discipline qui remonte à une quarantaine d'années maintenant. Mais
est-ce que la morale, ça existe en tant que telle, en tant que catégorie de la philosophie, par exemple, de la même manière que chez les occidentaux ou chez les catholiques qui ont une philosophie souvent héritée du thomisme lui-même issu d'Aristote. Est-ce que ça se pense comme ça? J'ai pas l'impression.
Pas de la même façon, non. Ce côté pratique l'explique d'une certaine façon, mais il faut dire aussi que dans l'orthodoxie, tout ce qui est « moral », entre guillemets, et en France, c'est un mot un peu plus discutable, même plus qu'aux États-Unis, on essaie de tout replacer dans une perspective théologique, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, en écrivant ce livre, je ne voulais pas produire tout simplement un autre livre parmi tant sur ce qu'on appelle la bioéthique. J'ai cherché plutôt, je suppose que la meilleure façon de le définir, c'est de parler d'une théologie biomédicale. Alors, pour offrir un soutien, une réflexion qui pourrait aider à nos étudiants, aux médecins, aux pasteurs, les prêtres de l'Église et tous ceux qui sont concernés par ces problèmes, à aborder certaines questions, certains problèmes. Il n'y a pas de morale dans le sens que nous n'avons pas de... comment dirais-je? Peut-être faut-il dire ceci. Il y a pas mal d'orthodoxes qui, encore aujourd'hui, se posent la question, y a-t-il une bioéthique orthodoxe? Et on peut répondre oui et non. Oui, dans le sens que tous nous sommes obligés, n'est-ce pas, à entrer dans cette problématique que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Mais en même temps, on veut éviter cette façon de morceler la chose pour qu'il y ait un domaine moral, n'est-ce pas, un domaine théologique, un domaine spirituel. Je crois qu'il y a dans l'orthodoxie une intégration de tout cela qui est très important à reconnaître. Et en fin de compte, ce qu'on appelle la morale a comme but tout cheminement, le même cheminement que l'ascèse, la vie de prière. Donc, s'il y a une certaine moralité que l'on vise, on essaie d'assumer dans le cadre de notre vie ecclésiale, liturgique, sociale. Le but, donc, c'est tout simplement d'entrer dans la vie en Christ pour parvenir à la vie éternelle. Donc, tout est pris dans cette optique-là, je dirais.
Alors, toujours pour continuer dans cet ordre d'idées, parce que je pense que ça peut... c'est assez fondamental et de parler de ça pour aborder la conversation justement sur ces deux sujets-là avec un orthodoxe. Et pour ceux qui autour de nous ne sont pas orthodoxes et nous écoutent, ça peut quand même être intéressant d'aborder ça. Dans l'orthodoxie, finalement, ces questions de morale, à un moment donné, doivent se résoudre ou trouvent leur règlement dans la direction spirituelle ou dans la relation spirituelle avec un père. Mais alors, j'ai envie de vous poser cette question. Aujourd'hui, cette relation spirituelle pour un orthodoxe avec le père spirituel, elle se passe comment? Est-ce que c'est avec le père de la paroisse? Est-ce qu'il y a encore des starets? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est courant? Parce que je crois que c'est un point assez crucial dans la recherche spirituelle de chacun. Voilà, comment ça se passe?
En Occident, de toute façon, les orthodoxes qui proviennent d'une tradition russe pratiquent la confession de façon assez régulière. En principe, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de leur vie quotidienne. Alors, quand il s'agit des questions d'ordre moral, je n'aime pas tellement le mot, mais...
Éthique, peut-être.
Éthique, je ne sais pas. Pratique, finalement, parce que ça revient à cela, n'est-ce pas? Oui. Comment se comporter dans le monde aujourd'hui, dans le contexte de nos familles et dans le monde ambiant? Premièrement, comme j'essaie de le dire toujours à nouveau à nos étudiants, nous pouvons avoir des lignes directrices en ce qui concerne la morale, tout en sachant qu'il y a un immense champ de liberté, mais la liberté dans l'Esprit-Saint, selon saint Paul dans le livre, la lettre aux Galates, par exemple. Ceci veut dire qu'on ne peut pas donner ce que cherchent les Américains, y compris les orthodoxes, c'est-à-dire une réponse toute faite à toute question, n'est-ce pas? On est obligé de prendre chaque situation sur la base de ses propres conditions, parce que l'essentiel, me semble-t-il, ce n'est pas de réaliser une morale, c'est de faire face à la vie d'une personne, de mettre en valeur la vie de la personne porteur de l'image de Dieu. Et donc, bien qu'il y ait certaines lignes directrices qui sont adoptées, je dirais, universellement dans l'orthodoxie, l'application de ces lignes est très différente. Deux pères spirituels, donc, que ce soit des prêtres de paroisse, que ce soit des moines qui vivent dans le désert, donc il y a toutes sortes de possibilités, n'est-ce pas, en ce qui concerne le père spirituel. Mais chacun peut donner une réponse légèrement différente. Néanmoins, je crois que dans l'ensemble, il y a une espèce d'intuition, n'est-ce pas, qui nous lie, qui crée une communion entre nous, de sorte qu'un prêtre de paroisse qui a pas mal d'expérience et énormément de compassion au niveau de son cœur peut rencontrer un moine qui a vécu toujours dans le désert, mais qui reçoit des pèlerins qui viennent vers lui. Et grosso modo, ils vont proposer le même genre de cheminement intérieur pour parvenir à la sainteté. Et finalement, c'est cela le but de l'ensemble, n'est-ce pas? Soyez saints comme votre Père Céleste est saint.
Alors c'est effectivement une des choses que vous abordez dans le premier chapitre de votre livre, hein, qui est un petit peu constitue à expliquer les soubassements théologiques de votre approche. Et vous évoquez notamment la théosis, c'est-à-dire la divinisation comme but de la vie de l'homme. C'est ça finalement, est-ce que c'est pas ça qui est la clé de voûte de toute réflexion, de toute démarche, de tout cheminement pratique dans les méandres de toutes ces questions?
Absolument. Mais il faut bien comprendre le sens de ce mot théosis. Le mot même fait scandale souvent en dehors de l'orthodoxie de toute façon, parce que on a l'impression que les orthodoxes veulent d'une certaine manière devenir Dieu ou remplacer Dieu ou je ne sais trop quoi. Bien sûr, la théosis est un mot qui signifie plutôt participation, hypostatique, personnelle, participation de l'homme, homme-femme bien sûr, à la vie divine. Et tout le but de notre cheminement moral, liturgique, spirituel, c'est effectivement de parvenir à cette plénitude de l'être humain qui est la théosis, la déification. Mais d'une certaine manière, c'est un peu mythologique cette façon de regarder la chose, mais la théosis n'est pas seulement quelque chose au loin, visé, mais hors de notre portée. Je dirais que le cheminement qui mène vers l'eschaton, vers la fin, vers l'achèvement de toutes choses, représente en même temps un retour. Un retour à l'être humain tel que Dieu l'a créé, tel que Dieu le voulait, n'est-ce pas? Alors, cela veut dire que chacun porte en soi les semences de la divinité, pas du tout dans un sens de confusion entre le créé et le non-créé. Mais il y a dans la vie chrétienne la possibilité d'une communion tellement profonde avec le Christ qu'avec saint Paul, nous pouvons parler réellement d'une vie en Christ, une vie avec le Christ, où le Christ est le alpha et oméga de toute notre existence. C'est ça donc le but de tout. Et je dirais aussi que dans un sens très général, c'est une autre façon de parler de la théosis.
Alors dans votre livre, on va rentrer un peu dans le détail, mais dernière question peut-être un peu générale. Dans votre livre, je crois que, par exemple, un catholique qui se plongerait, j'espère qu'il y en aura beaucoup, dans votre livre, je ne crois qu'il ne serait pas foncièrement dérouté par vos propos. Néanmoins, il y a quand même une spécificité du fait de l'approche par un orthodoxe dans ce livre. Comment définiriez-vous l'écart, la différence entre la façon dont un orthodoxe peut aborder ces questions et la manière dont un catholique ou un protestant, vous connaissez bien les protestants et les catholiques aux États-Unis, évidemment, la manière dont un catholique ou un protestant peuvent le faire. Qu'est-ce qui serait le ou les points majeurs de décalage et donc peut-être de débat sur ces questions-là ?
D'abord, je crois qu'il faut souligner le fait qu'il y a énormément en commun. Donc une recherche commune, un désir commun, soif de Dieu que nous partageons tous, n'est-ce pas? Et tout ce que l'on peut dire sous forme de... pour définir les différences ou les divergences qui existent entre nous en ce qui concerne la moralité, je crois qu'il faut parler donc cas par cas. Ça dépend. Bien sûr, en ce qui concerne, on pense souvent, n'est-ce pas, à la question de la contraception. Est-ce que la contraception est acceptable ou non? Nous n'employons pas d'habitude la notion de validité dans l'orthodoxie. Est-ce que c'est licite ou non licite? Néanmoins, on pose la question, est-ce que ce genre de comportement correspond à la volonté de Dieu ou non? Dans l'orthodoxie, il y a une divergence à propos de la contraception, non seulement vis-à-vis de l'Église catholique romaine, mais aussi à l'intérieur de l'orthodoxie même. Nous avons par exemple certains théologiens et des évêques qui sont totalement contre la contraception, et pour les mêmes raisons que les théologiens et le magistère catholique, n'est-ce pas? Tandis que pour beaucoup, et j'avoue que je tombe moi-même dans cette catégorie, sur la base d'une expérience pastorale aussi bien que sur la base d'une réflexion théologique, je dirais qu'il y a une certaine place pour une certaine contraception. Et puis voilà, on pourrait l'élaborer, on n'a pas le temps ce soir. Mais c'est un exemple où il y a une certaine divergence. Divergence qui est enracinée, encore une fois, autant dans la pratique pastorale que dans la réflexion théologique, n'est-ce pas? À d'autres propos, il y a...
On va peut-être justement pouvoir, quand on va aborder maintenant du début à la fin de la vie certains aspects, peut-être que justement vous pourrez revenir de temps en temps, à chaque fois qu'on abordera une question, en peut-être positionnant ce qu'il peut y avoir à la fois de commun entre les différentes confessions chrétiennes, mais aussi les divergences d'appréciation ou les différentes manières d'aborder les choses. On peut commencer par le début de la vie. On sait que évidemment les chrétiens sont préoccupés par le respect de la vie par définition, et notamment ce qu'on appelle la vie avant l'accouchement. On connaît les positions du magistère catholique très fermes, évidemment, par rapport à une question comme celle de l'avortement. Comment vous abordez-vous cette question du début de la vie, de l'embryon? Quels sont les soubassements de votre pensée sur ce point-là, sur ce point du début de la vie?
C'est ça. C'est toute la question ancienne du statut de l'embryon. Aux États-Unis, il y a au sein de l'Église catholique une divergence à ce propos, vous le savez bien. Donc le magistère a une position très claire et nette là-dessus. Dans l'ensemble, en ce qui concerne le début de la vie chrétienne, nous partageons cette perspective, c'est-à-dire l'ensemble de la perspective orthodoxe, je crois qu'on peut le dire ainsi, considère que le début de la vie humaine commence dès la conception, identique à la fécondation. Donc le syngamie, quand les deux noyaux du spermatozoïde et puis l'ovule s'unissent. En effet, c'est ce qui nous a beaucoup aidé dans ce sens, et vous, les catholiques, et nous, les orthodoxes, c'est les travaux de Jérôme le Jeune, taxé d'intégrisme par beaucoup, mais néanmoins qui a fait énormément de bonnes choses en clarifiant ce que c'est le statut de l'embryon. Or, il y a maintenant dans le monde, parmi beaucoup de chrétiens, même quelques théologiens catholiques aux États-Unis, mais chez beaucoup de protestants, comme chez des gens qui n'ont aucun rapport avec l'Église, une tentative de parler de l'embryon avant la nidation comme un pré-embryon. Et ceci pour une raison quasi politique. C'est-à-dire, si l'être humain commence, si la vie humaine commence uniquement à la nidation, ça ouvre le chemin, n'est-ce pas, pour n'importe quelle manipulation de l'embryon entre la fécondation et la nidation, l'implantation de l'embryon sur le mur utérin. On veut à tout prix trouver une possibilité de légitimer, n'est-ce pas, toute recherche sur l'embryon à cause du fait que les cellules souches embryonnaires prélevées au stade du blastocyste, donc 5-6 jours mais après la fécondation, mais avant la nidation, prélèvement d'ailleurs qui tue l'embryon, ces cellules souches que l'on peut récolter détiennent ou possèdent une souplesse et une possibilité extraordinaire sur le plan des thérapies potentielles. Aucune thérapie n'a été développée jusqu'à aujourd'hui utilisant les cellules souches embryonnaires. Pour nous, en tant qu'orthodoxes, cette notion de pré-embryon, comme pour les catholiques, du moins ceux qui suivent très fidèlement la ligne du magistère, cette notion de pré-embryon, c'est faux. C'est une notion qui est fausse. C'est une sorte de déception, si vous voulez. La vie humaine, encore une fois, dans notre perspective, de toute façon, commence donc dès le début. Et le jeune a démontré le fait, Jérôme le jeune, a démontré le fait qu'il y a donc un processus qui s'appelle méthylation, déméthylation. Mais dont l'importance est ceci, la méthylation est un signe qui fait preuve du fait que la différenciation cellulaire commence avec la mitose, ou au moins la deuxième étape de la mitose. Et s'il y a une différenciation cellulaire dès le début, ça veut dire qu'il y a le développement, il y a un plan, si vous voulez, Jérôme Lejeune en parle, n'est-ce pas, un plan qui va aboutir à une vie humaine à la naissance, et cela signifie aussi qu'il y a une continuité totale entre fécondation et naissance, une continuité qui nous oblige à dire que la vie humaine ne commence qu'ici, à la fécondation, donc notre perspective à nous. Encore une fois, nous sommes engagés aux États-Unis dans un immense débat. Il y a dans la grande université de Princeton un certain Peter Singer, venu d'Australie, qui est persuadé non seulement que la vie humaine n'existe pas à la fécondation ou à la nidation ou pendant la grossesse ou à la naissance, mais il faut que l'enfant soit gardé, donc protégé, jusqu'à la fin du premier mois. Et on va maintenir cette vie, encourager cette vie, dans la mesure où il n'y a pas de tare génétique sérieuse. Donc, l'enfant même est obligé de faire preuve de sa viabilité, ce qui pour nous, franchement, est scandaleux. Mais voilà le genre de débat qui nous prend aujourd'hui, n'est-ce pas?
C'est vrai que là-dessus, c'est assez proche de ce qu'on entend dans le magistère catholique. Est-ce qu'il y a malgré tout des différences à souligner. Peut-être que, évidemment, je pense que vous êtes très loin de même des théories de Saint Thomas sur l'infusion de l'âme, mais d'ailleurs qui sont aujourd'hui un peu considérées majoritairement comme des théories anciennes. Mais là, on sent qu'il y a eu un courant, il y a eu deux histoires un peu différentes dans la manière de voir ces choses-là.
Oui, c'est une question délicate parce qu'il s'agit du langage et la signification des mots. Mais ce qui est évident, c'est que les orthodoxes ne veulent pas parler, comme les catholiques, de l'infusion de l'âme à un moment donné, que ce soit à la fécondation, que ce soit à la nidation ou ultérieurement, n'est-ce pas? Parce que la notion d'une infusion de l'âme dans le corps humain, à nos oreilles, c'est trop dualiste. C'est trop dualiste. Comme, c'est un peu l'hérésie d'Origène, si vous voulez. J'aime énormément Origène, mais il posait pas mal de problèmes dans sa réflexion, n'est-ce pas? Surtout en ce qui concerne l'embryon. Chez lui, il y a donc, c'est une caricature, bien sûr, mais d'une certaine façon, il y a une multitude de petites âmes qui flottent là-haut, n'est-ce pas, tout en attendant à se faire incarner dans un corps humain. Donc c'est une suite au dualisme platonicien très évident.
Est-ce qu'on n'en sort pas justement en parlant comme saint Paul de corps âme et esprit?
Oui, jusqu'à un certain point. Par contre, ce que j'ai essayé de souligner ici, c'est le fait que à mon sens, dans une perspective biblique, il ne faut pas parler de l'âme que l'on possède, mais l'âme que l'on est. Je n'ai pas d'âme, je suis une âme. Dieu souffle, image de la Genèse, n'est-ce pas, Genèse 2:7. Dieu souffle dans l'âme, Adam, et l'âme devient un être vivant. C'est donc le souffle de Dieu qui anime, qui donne vie et qui donne un sens à cette vie aussi, n'est-ce pas? Le souffle n'est pas seulement un principe d'animation, mais l'âme même, dans ce sens, je dirais, est ce qui nous met sur la route qui mène vers la théosis.
Alors, on ne va peut-être pas rester plus longtemps sur le début de la vie, et pourtant il y aura beaucoup de choses à dire, mais ceux qui veulent en savoir plus, eh bien liront votre livre, voilà, une bonne manière de les motiver. Allons maintenant, je dirais, au moment où l'homme et la femme s'unissent se rencontrent pour un projet commun d'amour et de fécondité à tous les sens du mot. Là aussi, le lecteur catholique ou protestant ne devrait pas être totalement dérouté. Mais il y a quand même, je crois, une spécificité orthodoxe de la théologie du mariage. Et il me semble que ce serait bien si vous pouviez nous la remettre en contexte. Quelques mots, évidemment, hélas.
Bien sûr. Depuis pas mal d'années, pas mal de siècles presque, il y a un certain débat entre les catholiques et les protestants en ce qui concerne le rôle principal du mariage. Est-ce que c'est pour unir hommes et femmes en une nouvelle création ou bien est-ce que c'est principalement pour la procréation, n'est-ce pas? Aspect unitif ou bien aspect procréatif. Encore caricature, les protestants veulent que ce soit unitif, les catholiques veulent que ce soit procréatif, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, c'est une généralité à outrance, excusez-moi, surtout les protestants et catholiques qui sont parmi nous. Mais pour les orthodoxes, je crois qu'il faut dire que nous soulignons ces deux aspects du mariage, mais j'ai voulu toujours mettre en relief ce qui me semble un autre aspect, peut-être même plus important, ce que j'appelle donc la dimension d'alliance. Dieu a créé des alliances avec son peuple, avec Abraham, avec l'ensemble du peuple d'Israël, et puis l'homme et femme, à l'image de l'amour du Christ pour l'Église, s'unissent en une fidélité, en une profondeur, une communion éternelle qui pose la base de tout autre aspect de leur vie conjugale, y compris l'union sur le plan sexuel, sur le plan affectif, etc. Cela d'une part, et d'autre part, toute la question de la procréation. Je crois que tous nous sommes assez sensibles à ce propos parce que je crois qu'il n'y a personne, protestant, catholique ou orthodoxe, qui dirait qu'un couple bien uni sur le plan de l'amour, sur le plan de la foi, le mariage n'est pas du tout diminué s'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple. Il y a un autre aspect qui m'est venu à l'esprit. Excusez-moi, ça m'échappe pour le moment, mais c'est un aspect important dans toute cette question du mariage. On reviendra éventuellement.
Oui. Effectivement, il y a cette conception du mariage et elle éclaire, je pense, toutes les questions autour de... des pratiques sexuelles, notamment avant le mariage. Alors, ça fait partie des choses qui sont généralement tournées en dérision, que ce soit quand un catholique en parle, mais je suppose que quand un orthodoxe en parle aussi, ça peut être la même chose, je ne sais pas exactement. C'est un peu facile. Mais comment vous abordez assez longuement un certain nombre de choses et comment... quel est le discours d'un orthodoxe là-dessus et comment ça se relie justement à cette théorie, à cette théologie du mariage ?
À dire la vérité, je crois que je n'aurais pas pu entrer en tant de détails si j'avais écrit ce livre en France. Aux États-Unis, on a toujours besoin des réponses toutes faites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tandis que vous, les Français, vous avez une certaine souplesse à ce propos. Un accent sur la valeur de la personne, la réflexion personnelle, qui vous permet, me semble-t-il, de tirer des conclusions concernant la vie sexuelle, surtout. Il est très difficile de parler de tout cela parce que c'est une question tellement délicate. Mais chez nous, par exemple, les jeunes viennent. Même si un jeune couple, des adolescents, vivent ensemble sans être mariés, ils veulent savoir, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi est-ce que vous ne l'acceptez pas? Pourquoi est-ce que vous nous mettez toujours en question? Surtout, étant donné le fait que presque 50% des mariages tombent en ruine, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi des mariages à la chaîne, mais qu'est-ce que ça signifie? Donc, pourquoi pas vivre ensemble si on s'aime? Quand il s'agit d'autres sortes de questions, des pratiques d'ordre sexuel, on veut bien savoir est-ce que ceci est permis, est-ce que cela n'est pas permis. J'avoue, surtout avec mes expériences en France et dans une perspective plutôt européenne, il est très difficile pour moi d'entrer aux États-Unis. Entendre ce genre de questions et essayer de donner une réponse toute faite. J'essaie toujours de m'engager dans un dialogue avec les personnes qui posent de telles questions, qu'il s'agit des pratiques sexuelles tout à fait ordinaires ou bien ce que l'on appelle même des perversions, des péchés de la chair, n'est-ce pas, fornication, prostitution, masturbation, donc tout ce qui peut marquer la vie de telle ou telle personne, jusqu'au point où ils sont troublés par tout cela et veulent savoir, pour le dire de façon un peu naïve, mais c'est tout à fait ça, que pense Dieu à ce propos, n'est-ce pas? Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne mon comportement sur le plan sexuel. On essaie, moi de toute façon, je parle pour moi, en tant que pasteur, j'essaie de maintenir un équilibre entre la tradition de l'Église, qui est très ferme à ce propos, et puis aussi les exigences imposées par la vie moderne, qui ne veut pas dire que nous jetons carrément la tradition de l'Église, pas du tout. Mais il y a une façon d'adapter les prescriptions traditionnelles de l'Église, même dans le domaine de la sexualité, encore une fois, non pas pour ouvrir le champ sur n'importe quoi, mais afin de respecter certaines décisions prises par les jeunes, et s'il s'agit des décisions qui nous posent problème, au lieu d'imposer une morale, imposer une interdiction en disant « vous continuez comme ça », donc 10 ans d'excommunication, je ne sais trop ce que recommandent les canons, mais on essaie d'entrer en dialogue avec eux. Essayer de les retrouver, resituer là où ils sont, n'est-ce pas? Comprendre leur raisonnement. Pourquoi est-ce qu'ils ont adopté un comportement, par exemple, qui, paraît-il, ne représente rien, qui respecte réellement la notion traditionnelle du mariage. Je ne sais pas si ça répond à la question. Encore une fois, il y a une différence entre la perspective française et la perspective américaine.
En tout cas, ça me permet... Ça me permet de rebondir sur une autre question. Le micro est capricieux. Ça me permet de rebondir sur une autre question à laquelle vous avez déjà commencé à répondre. Mais effectivement, on sent dans le livre un côté, je dirais, américain, avec un souci, je dirais, voilà, de réponse presque clé en main. Enfin, vous, c'est pas comme ça. Évidemment, mais avec des réponses un peu clés en main. Est-ce que ça veut dire vraiment que vous l'auriez fait en France, par exemple, directement et en français, vous auriez été dans une approche différente. Est-ce que ça veut dire que ce livre est vraiment aussi conditionné d'une certaine manière par votre expérience américaine?
Jusqu'à un certain point, je dirais que oui. J'espère tout de même que ce que je dis dans ce livre représente avec suffisamment de fidélité la perspective orthodoxe, la tradition orthodoxe, pour que ça donne une bonne idée de ce que c'est la perspective théologique de notre tradition, qui pourrait, je l'espère, être utile pour nos frères catholiques et protestants, etc., aussi pour les orthodoxes en Europe. C'est surtout le seul chapitre qui a posé ce problème, bien sûr, c'est le chapitre sur la sexualité, n'est-ce pas?
Bien sûr. Alors, comme il est déjà 7h moins le quart, on va peut-être aborder des questions sur la fin de la vie. Là aussi, on sait que dans les sociétés modernes, occidentales notamment, les questions se posent de manière forte et ne cesseront de se poser plus encore. Je crois que là, sur ce domaine-là, il y a quand même une convergence assez forte, là aussi, avec ce que disent les catholiques. Comment abordez-vous néanmoins une question qui est... Alors l'euthanasie, on voit bien comment vous l'abordez, mais comment abordez-vous des questions qui sont très souvent occasion de troubles pour les chrétiens, c'est-à-dire cette zone où quelqu'un en fin de vie n'a plus de perspective véritablement de guérison, mais où il est sous assistance mécanique et médicale permanente, où on doit prendre à un moment donné une décision de débrancher, comme on dit en France. Comment abordez-vous ce genre de questions qui sont pour beaucoup de gens, pour beaucoup de familles, des questions extrêmement douloureuses, y compris par rapport à leurs convictions chrétiennes?
Bien sûr.
Et qui les angoissent?
Bien sûr. La tradition orthodoxe soutient très fortement, essentiellement, la notion de la qualité sacrée de la vie humaine. Quand il s'agit des personnes qui se trouvent en stade terminal, et c'est réellement stade terminal, non pas 6 mois à vivre, parce que tout peut se passer dans une période de 6 mois, n'est-ce pas? Mais il faut employer, me semble-t-il, la notion de stade terminal avec quelques jours, quelques semaines devant soi, pour autant qu'on puisse le préciser, n'est-ce pas? Diagnostiquer. Or, on est toujours coincé par ce débat entre ceux qui prônent l'acharnement thérapeutique et ceux qui optent strictement pour une perspective qualité de la vie. Encore, pour en faire une caricature, ceux qui veulent insister sur la notion de l'acharnement thérapeutique, souvent ils prétendent représenter une perspective chrétienne. Il faut préserver la vie à tout prix. La vie nous est donnée par Dieu. Et puis, notre obligation, c'est de maintenir cette vie autant que possible. Là, je vois non pas une perspective chrétienne ou biblique, mais plutôt vitaliste. C'est une philosophie qui veut que, ou qui a comme principe de base la notion qu'au-delà de la vie terrestre, biologique, il n'y a rien. L'autre pôle de cette espèce de dichotomie, c'est donc la notion de la qualité de la vie qui prétend que si l'homme tombe dans une situation de dépression ou ras-le-bol ou n'importe quoi, n'est-ce pas, j'en ai marre, je n'en veux plus, j'ai le droit de mettre fin à ma vie. On n'accepte ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas? On peut entrer dans un exemple très, très particulier. Faut-il maintenir une personne, la vie d'une personne par respirateur, ventilateur, n'est-ce pas? Ou bien faut-il à un moment donné couper cela et permettre ce que l'on appelle une euthanasie passive? De plus en plus, je suis persuadé, avec mes frères catholiques d'ailleurs, que la notion de euthanasie passive est tout à fait fausse. Il n'y a pas d'euthanasie passive. Couper un ventilateur et permettre à la personne de mourir suite à un accident ou comme conséquence d'une maladie, c'est tout simplement c'est un acte ecclésial. C'est-à-dire qu'il faut entourer la personne de la prière et faire tout possible pour que le passage soit, comme nous le disons dans nos litanies, sans douleur, sans honte, paisible, n'est-ce pas? Autrement dit, il faut renoncer à la notion de l'acharnement thérapeutique tel que ceci se déploie finalement dans les salles d'urgence, dans nos hôpitaux et ailleurs. Ceci dit, il faut essayer tout faire pour les gens pour qu'ils puissent, à la fin de leur vie, maintenir ce que j'appellerai donc un maximum de conscience avec un minimum de douleur. Et nous avons les médicaments aujourd'hui qui sont normalement suffisants pour cela, afin que la personne puisse communier une dernière fois, se réconcilier avec membres de la famille, entrer de nouveau en rapport avec la famille et faire un passage qui est réellement communautaire. Il est essentiel que l'Église entoure les personnes en train de mourir. On sait bien que instinctivement, beaucoup de médecins, par exemple, ont tendance à se retirer de la personne qui est en train de mourir. C'est les infirmières qui arrivent afin d'offrir les vrais soins. Or, il faut que l'Église soit présente dans la personne des laïcs, des prêtres, tout le monde finalement, afin de porter la personne, parce que, en fin de compte, nous sommes ici dans un moment de l'éternité afin de préparer quelque chose. Et ce quelque chose qui est la vie éternelle est la chose la plus glorieuse que l'on puisse imaginer. Donc, essayez de nous faire comprendre les uns aux autres que voilà, tous nous sommes en voie vers la gloire du Christ, vers la splendeur de la vie céleste. Donc, tout cela, encore une fois, c'est un acte ecclésial qui oblige tout accompagnement des mourants à être entouré par nous tous.
Alors, vous l'avez dit, il y a effectivement la question de la souffrance qui se pose, et notre société est allergique à la souffrance d'une manière quasi absolutiste. Vous en parlez très bien dans votre livre, en essayant justement de montrer quel sens peut avoir la souffrance dans la vie d'un homme. D'ailleurs, vous vous démarquez de certaines thèses catholiques, notamment la doctrine de justification. Peut-être que vous en direz un mot, mais vous avez une réflexion sur la souffrance qui est, je pense, de nature à éclairer les débats et les consciences au moment où ces questions de fin de vie se posent. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
La tradition chrétienne a toujours reconnu le fait qu'il y a dans la souffrance la possibilité d'une transformation, véritable transfiguration de la vie d'un être humain. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la qualité rédemptrice de la souffrance, n'est-ce pas? Néanmoins, il faut reconnaître aussi qu'il y a des cas où la souffrance devient tellement prenante, on est tellement accaparé par les douleurs, par l'angoisse, on ne peut plus prier, on ne peut pas être donc ouvert devant les mystères de Dieu, donc ça n'a aucun sens pour ceux qui sont réellement en proie à une souffrance aiguë et sans relâche. Il y a plusieurs façons maintenant à aborder tout cela par des médicaments. On a fait énormément de progrès dans ce domaine. Mais quand il s'agit de la souffrance en général, il y a une perspective orthodoxe qu'il faut remettre en lumière. Je crois que c'est une perspective que n'importe quel chrétien pourrait adopter. À peu près celle-ci. Comme j'ai dit à quelques-uns de nos étudiants l'autre jour, il y a une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, je sais d'où elle vient. Je sais qu'elle sera limitée. Je sais que je peux appliquer telle ou telle mesure afin de l'atténuer. La souffrance, c'est comme l'angoisse. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas saisir. Bien sûr, j'ai des notions d'où ça vient. Néanmoins, je ne peux pas définir, expliquer et surtout pas résoudre le problème de la souffrance par la raison. Et même souvent par la prière. Je ne peux pas le faire par la prière même. J'essaie de prier au sujet de ma souffrance ou de la souffrance de quelqu'un que j'aime. Et il paraît que Dieu est sourde. Ce n'est pas le cas, nous le savons bien. Néanmoins, on se trouve très souvent dans un désert spirituel, vivant une sécheresse épouvantable, insupportable, ce que l'on appelle la souffrance, que ce soit physique, affectif, spirituel, donc il y a toutes sortes de souffrances. Mais je crois qu'il y a une dernière chose à dire à ce propos, et peut-être la seule chose à dire. Finalement, nous ne pouvons jamais expliquer le mystère de la souffrance de façon adéquate. Et pour beaucoup de monde, ça crée une espèce de frustration insupportable. Ce n'est pas du tout nécessaire parce que, en ce qui concerne la souffrance, nous savons bien ce qui est essentiel. Non pas que Dieu va nous expliquer la raison, du moins pas dans cette vie terrestre, mais à travers notre souffrance, nous pouvons avoir la certitude absolue que, quelles que soient ses origines, sa raison d'être, son but, Dieu chemine avec nous dans la souffrance, portant cette souffrance jusqu'au bout. C'est-à-dire, Dieu ne connaît pas seulement le fait que nous sommes en train de souffrir. Tout le sens de la croix, c'est qu'il porte cette souffrance en lui. Je crois que c'est ça le sens de la parole de Pascal, n'est-ce pas ? Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Et puis, nous, dans notre petite vie jusqu'à la fin de notre monde, nous pouvons être certains que le Christ ressuscité demeure néanmoins le crucifié qui porte notre crucifixion, notre souffrance avec lui, avec énormément de fidélité. Et voilà, me semble-t-il, la vraie source de l'espérance en ce qui concerne la souffrance humaine.
Alors, Pour terminer, après ce très beau témoignage et cette belle réflexion, une dernière question qui mériterait des heures de réponse, mais voilà, en fait, ça sera quelques secondes. Mais une réflexion chrétienne sur l'éthique aujourd'hui, je caricature un peu, mais vu le monde dans lequel nous vivons tous, est-ce que c'est encore temps de la poser ? Est-ce qu'elle peut encore parler à nos contemporains pour lesquels un certain nombre de notions sont quasiment du chinois ? Comment porter ce message pour qu'il soit intelligible pour ceux qui n'ont pas rencontré le Christ ? Et même à l'intérieur de ceux qui l'ont rencontré, par exemple par la grâce du baptême, qui en sont un petit peu éloignés peut-être. Comment porter ce message au monde ?
Chez ceux qui n'ont aucune expérience avec le Christ, aucune formation catéchétique, doctrinale, théologique, je crois que la seule façon de démarrer de toute façon un témoignage valable, ce n'est pas par les paroles, c'est par les actes, par les gestes. Et dans la mesure où nous pouvons toucher la vie les uns des autres avec charité, avec énormément de respect, encore une fois, pour la personne, avec le seul but final de remettre la personne entièrement entre les mains de Dieu, sous la grâce de Dieu. Ça se voit, ça se ressent. Et ce geste offert aux chrétiens est extrêmement important. Mais je crois que c'est aussi ce genre de geste qui peut parler aussi, témoigner au cœur du monde ambiant. Je ne sais pas. Au-delà de cela, je serais obligé d'entrer en détail cas par cas, je pense. Mais encore une fois, je pense qu'avant de commencer par les mots, par la doctrine, par la théologie, par les admonitions sur le plan moral, mon Dieu, il faut commencer par les gestes, et les gestes d'amour, de réconciliation, de communion. Puis-je mentionner une chose qui pourrait éventuellement intéresser nos lecteurs? Je voulais vous dire qu'il y a déjà en français pas mal de choses qui sont parues dans le domaine de la bioéthique, et je voulais vous signaler deux sources principales. Le service orthodoxe de presse, donc le SOP, que beaucoup d'entre vous connaissez, a publié deux recueils, questions de bioéthique, un deuxième recueil, qui sont disponibles chez Jean Tchekan à Courbevoie. Donc il y a là-dedans toute une gamme de sujets abordés par des théologiens orthodoxes. Et je vois dans ces articles une certaine perspective qui, me semble-t-il, est réellement celle qu'il faut viser dans toute notre réflexion d'aujourd'hui. La deuxième source que je voulais signaler, c'est donc ces 6 volumes, j'en ai le premier ici, publié par l'Institut Saint-Serge, c'est la bioéthique orthodoxe, publié par l'Association orthodoxe d'études bioéthiques, AEBE. Nous avons des actes provenant de nos colloques qui sont publiés à chaque reprise, donc des colloques qui ont lieu une fois tous les 15 mois, 18 mois, 2 ans. Donc, à votre disposition, à l'Institut Saint-Serge, mais dans d'autres bibliothèques ici en ville. Je voulais dire cela tout simplement, que vous sachiez que ce livre est loin d'être le seul petit témoignage sur la bioéthique qui existe et qui est à votre disposition. Et si ces questions vous intéressent, vous préoccupent, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent offrir une perspective orthodoxe dans ces domaines. Merci.
Merci, mon père, pour votre passage à la procure. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le don sacré de la vie aux éditions du CERF. Je rappelle aussi que donc cet échange et votre intervention va être mise en ligne dans quelques jours sur le site orthodoxie.com. Et merci à toute l'équipe d'orthodoxie.com et au Père Givco pour leur partenariat avec la Procure dans cet événement et dans d'autres à venir, nous espérons. Juste un mot, jeudi prochain, dans un genre un peu différent, Marie de Henzel pour son dernier livre. La chaleur du corps empêche, du cœur empêche nos corps de rouiller. Merci au Père Breck pour sa venue.